Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Waouh!
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bande dessinée. Bonjour à tous, il est 10h30 sur Art District Radio, c'est l'heure de Bulle d'Histoire avec Stéphane Dubreuil et comme à chaque fois, eh bien on va parler de bande dessinée historique même. Alors la fois dernière, on était déjà en Afrique, en Centrafrique même avec Didier Kassai, votre invité Stéphane. Aujourd'hui on repart vers l'Afrique je crois.
On repart vers l'Afrique ? Mais on repart surtout dans certains milieux africains, le milieu des chefs d'État africains, mais aussi on va faire quelques allers-retours avec la France et avec la politique française et les hommes politiques français. Pour ça, je suis à côté, devant plutôt, Xavier Harel, qui a scénarisé une bande dessinée merveilleuse, dont le titre est un peu long et un peu compliqué, mais il va nous expliquer tout ça. L'argent fou de la France-Afrique, l'affaire des biens mal acquis. Xavier, est-ce que vous pouvez, avant de commencer, nous dire qui vous êtes pour que nos auditeurs fassent connaissance avec vous ?
Bien sûr, bonjour. Je suis donc Xavier Harel, je suis journaliste économique. J'ai fait une bonne partie de ma carrière à La Tribune, qui est un quotidien économique. Et depuis quelques années, je fais du documentaire et depuis peu de la bande dessinée documentaire. Avec une spécialité, ce que j'aime c'est regarder sous les tapis, ce que j'aime c'est regarder ce qui se passe derrière la porte, donc je fais beaucoup d'investigations financières sur les banques, sur les paradis fiscaux, les matières premières, le pétrole et la France-Afrique sur laquelle j'ai travaillé pendant une bonne dizaine d'années à La Tribune, sujet qui joue un rôle assez important dans la politique française et qui est assez méconnu.
Alors, on pourrait penser que l'économie c'est aride et compliqué. Dans cet album, vous la rendez extrêmement simple et extrêmement claire, donc c'est déjà une qualité très importante. Avant d'aller un peu plus loin, est-ce que vous pouvez nous parler du titre et de nous expliquer ce que sont à la fois les biens mal acquis et la France-Afrique ?
Alors on va commencer par la France-Afrique. La France-Afrique, c'est quelque chose de très ancien qui vient avec la décolonisation des anciennes colonies françaises sur le continent africain au tout début des années 60. Et la France est enfin, les anciennes colonies françaises en Afrique sont un peu particulières puisque la plupart des autres pays, eh bien, ont gagné leur indépendance les armes à la main, que ce soit les anciennes colonies portugaises, britanniques, eh bien, ils se sont libérés du colon. Pour la France, c'est tout à fait différent, c'est-à-dire que la plupart de ces pays, eh bien, ont obtenu l'indépendance, à l'exception de l'Algérie, en 1960, par la décision du général de Gaulle. Et ce qui s'est passé, eh bien, c'est qu'il a mis à la tête de ces pays, nouvellement indépendants, eh bien, des régimes amis, des régimes proches, des gens qu'on pouvait contrôler d'une certaine façon et pour assurer la transition. Et de cette situation, eh bien, est née une relation très particulière entre Paris et ses capitales africaines, qui sont des liens très forts, qui reposent en partie sur la sécurité, c'est-à-dire que la France a des bases militaires en trois pays en Afrique et s'est engagée par des accords secrets eh bien, à assurer la stabilité de ces régimes. C'est-à-dire que ces régimes, s'ils faisaient face à des opposants ou à des oppositions armées, eh bien, la France intervenait pour les maintenir en place. Pourquoi ces pays étaient importants pour la France ? Eh bien, parce qu'il y avait du pétrole, de l'uranium, des matières premières importantes pour la France et qu'elle voulait absolument y avoir accès puisque sa principale ressource en matière de pétrole et de gaz après-guerre, eh bien, c'était l'Algérie. L'Algérie est devenue indépendante et a pris ses distances avec la France. Donc ces petits pays pétroliers hein, que sont la Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo-Brazzaville, qui sont tous en Afrique centrale, eh bien, sont devenus des pays très importants pour la France et notamment pour ELF, la compagnie pétrolière française qui a noué des relations très particulières avec ces pays.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de post-colonisation, de colonisation qui continue, donc une histoire qui se perpétue en fait ?
Ah tout à fait, on est dans le néocolonialisme à la française, hein, ça y a aucun doute là-dessus. Mais sur ce socle, eh bien, se sont mis en place des relations très particulières, très incestueuses, qui reposent sur l'argent et sur la corruption et sur le détournement des recettes pétrolières par ces pays pour le bénéfice de compagnies pétrolières comme Elf, mais également pour le bénéfice de une bonne partie de la classe politique française qui s'est payée sur la bête pendant de très très nombreuses années. C'est ça la France-Afrique.
Oui, donc on parle de bande dessinée historique et il faut bien comprendre que ça dure extrêmement longtemps. C'est pas des petits coups comme ça, ça dure pendant des dizaines d'années avec des chefs d'État africains qui sont au pouvoir pendant 25, 30 ans.
Tout à fait, vous avez les régimes les plus durables, disons, sont des régimes d'anciennes colonies françaises sur le continent africain, en tout cas c'est le cas. Cette longévité tient au soutien de la France à ces régimes, ce qui fait qu'il n'y a pas d'alternance et que la seule forme d'alternance, bien souvent dans ces pays, eh bien, ce sont des coups d'État et que l'alternance démocratique eh bien, est quasiment impossible puisque... Dans les pays dont je parle, hein, d'Afrique centrale, qui sont riches en pétrole, eh bien, les régimes qui tiennent le pouvoir tiennent l'argent du pétrole au Gabon, au Congo ou en Guinée équatoriale, c'est 90-95% des recettes du pays. Donc celui qui tient le pouvoir tient les recettes du pétrole. Eh bien, ces pays, ces régimes ont les moyens de perdurer et de s'installer dans le temps et d'empêcher eh bien, toute alternance, puisqu'ils achètent l'opposition, ils achètent les syndicats, ils achètent les étudiants, ils achètent leurs opposants, ils achètent les entreprises. Et que si vous voulez même exister comme entrepreneur, eh bien, c'est impossible de le faire en dehors de l'État. Vous êtes obligé de le faire avec l'appui du régime. Et donc, bah, ces pays, il n'y a pas d'alternance.
Alors, dans le sous-titre de votre album dessiné par Julien Solé, je ne l'ai pas dit au début, il y a l'affaire des biens mal acquis. Qu'est-ce que c'est qu'un bien mal acquis ?
Alors, un bien mal acquis, comme son nom l'indique, c'est un bien qui a été acquis grâce à des moyens frauduleux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, on parle, en fait, l'affaire des biens mal acquis concerne trois pays, trois régimes. Hein. Ça concerne le Gabon et la famille Bongo, qui est au pouvoir depuis maintenant plus de 50 ans. Hein. Il y a d'abord eu Omar Bongo, et puis son fils lui a succédé, Ali Bongo, en 2009. C'est la famille Obiang Nguema. En Guinée équatoriale, qui de part est une colonie espagnole, mais qui a rejoint la zone franc et qui maintenant fait partie de la zone d'influence française. Et puis, il y a le Congo-Brazzaville de Denis Sassou Nguesso, qui est revenu au pouvoir en 1997 à l'issue d'un coup d'État sanglant et qui tient ce pays d'une main de fer et qui, pareil, de la même façon, assoit son pouvoir sur l'argent du pétrole. Et donc, ces régimes, ces potentats, ces dictateurs, se payent sur la bête et mènent un train de vie absolument délirant, qui a trouvé refuge en France. C'est-à-dire qu'ils ont tous acquis un patrimoine immobilier en France qui est absolument considérable. Le plus emblématique, c'est Théodorin Obiang Nguema, le fils du président de la Guinée équatoriale, qui a acheté un immeuble entier au 42 avenue Foch, qui vaut plus de 150 millions d'euros, et qui a été saisi par la justice française dans le cadre de l'affaire des biens mal acquis, alors que son salaire officiel, c'est quelques milliers d'euros. Et donc, évidemment, cet argent, il a été détourné. C'est l'argent du pétrole, c'est l'argent de l'exploitation du bois. Là où ça devient problématique, c'est que cet argent, il a transité par les comptes de la Banque de France, il a transité par les comptes d'un certain nombre de banques françaises, et que tout cet argent atterrit en France.
Mais ça a même un côté, j'allais dire, ridicule, parce que dans le cadre de ce bien mal acquis particulier, on découvre aussi des installations absolument hallucinantes dans les appartements, dans les immeubles, des dizaines de voitures, des dizaines de montres, des centaines de costumes. Donc il y a en même temps une espèce de folie de la dépense.
Oui, Théodorin Obiang Nguema est un personnage de cinéma, d'un personnage de fiction. Il est tellement exubérant. Quand il va acheter des CD, il les achète par milliers. Il a des dizaines de voitures de luxe. Il a même des voitures qui sont à l'identique. Il a les voitures les plus chères du monde. Il avait acheté deux Bugatti Veyron. Il s'en produit 50 par an. Il a également acheté une villa à Malibu, aux États-Unis, 35 millions de dollars. À l'époque, ça avait été la sixième transaction immobilière la plus chère des États-Unis. Pareil, de la même façon, il avait aux États-Unis un parc automobile complètement délirant avec des dizaines et dizaines de voitures de luxe. Il avait un avion personnel. Récemment, il a acheté deux yachts, mais pas des yachts de 10 ou 20 mètres. Il a acheté des yachts de 150 mètres qu'il a acheté des centaines de millions de dollars. Son salaire officiel, c'est quelques milliers d'euros.
L'autre scandale, c'est que tout cet argent ne revient pas aux Africains, finalement.
Évidemment, si cet argent est en partie détourné, ce qui est choquant dans tout ça, c'est pas qu'il y ait des gens riches, c'est que cet argent soit volé. Et que dans le cas de la Guinée équatoriale, c'est un pays où les conditions de vie sont absolument sordides. C'est un pays qui produit des pétroles depuis maintenant 15 ou 20 ans, et la population ne bénéficie absolument pas des retombées de pétrolières. Parce que l'essentiel de l'argent est capté par la famille Obiang, et est détourné par la famille Obiang, avec la complicité de banques françaises, avec la complicité de grandes entreprises françaises, mais pas seulement.
Alors, dans votre enquête, on va parler de la bande dessinée, mais juste pour finir sur le sujet. Effectivement, on découvre que beaucoup d'institutions, d'entreprises, de banques, d'hommes politiques en France sont, on peut dire, complices de cette spoliation. Comment ça marche? Comment s'articule cette complicité entre la France et les potentats africains?
Alors elle se situe à plusieurs niveaux, et je pense que la façon la plus simple de l'expliquer, c'est de remonter aux années Elf. Alors Elf, c'était la grande compagnie pétrolière française qui a été rachetée par Total en 2000. Elf avait énormément de concessions pétrolières dans ces pays pour des raisons politiques. C'était une émanation de la politique étrangère française, de la politique africaine française. Elf obtenait des concessions pétrolières à des conditions extrêmement avantageuses. Pourquoi ? Parce que Elf reversait une partie de l'argent du pétrole directement sur les comptes en Suisse ou au Liechtenstein des présidents de ces régimes. Elf finançait également la classe politique française. Ça a été expliqué, réexpliqué. Alfred Sirven, Roland Dumas, il expliquait que voilà, Elf était la vache à lait de la République française. Et donc, pourquoi est-ce que Elf finançait la classe politique française ? Eh bien, pour que la classe politique française ferme les yeux sur ce que faisait Elf en Afrique notamment. Qu'est-ce qui se passait également ? C'est que, eh bien, une grande partie de la classe politique française était achetée par ces régimes qui voulaient obtenir leur soutien. Et donc, il y avait énormément de valises, les fameuses mallettes dont Robert Bourgis a parlé, c'est des sommes très, très colossales. C'est très important. Ce sont des dizaines de millions d'euros qui ont fini dans les poches de Jacques Chirac et d'un certain nombre de présidents et de ministres et de parlementaires, eh bien, pour acheter leur silence ou leur soutien lorsque la situation pouvait se compliquer pour ces régimes. Donc, vous avez un système circulaire où vous avez d'un côté la classe politique française, en tout cas la partie la plus vénale de la classe politique française, ça ne concerne pas tout le monde. De l'autre côté, vous avez ces régimes quasi dictatoriaux et corrompus. Et puis, vous avez une compagnie pétrolière comme Elf, et tout le monde se goinfre. C'est-à-dire que l'argent du pétrole arrose la classe politique française, ces régimes et Elf. Et au milieu, vous avez les populations qui n'en tirent quasiment aucun bénéfice.
Alors, on va parler aussi de l'album qui est construit très, j'allais dire, c'est très fluide. Pourtant, c'est très complexe et très touffu. Mais il y a un peu trois histoires dans cet album. Il y a l'histoire de votre enquête journalistique et où vous démontrez comment tout ça fonctionne. Il y a aussi l'histoire du procès, puisqu'il y a des procès qui se tiennent et des dictateurs africains perdent des procès. Ça, c'est absolument passionnant à suivre. Et il y a enfin toute une série, j'allais dire, de fiches de la corruption, où en une page, en une petite carte, en un graphique, vous arrivez à expliquer des choses très complexes, des circuits financiers, des circuits pétroliers. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette écriture, j'allais dire, à trois étages, dans la bande dessinée ?
Alors, le fil conducteur, effectivement, de cette bande dessinée, c'est l'affaire des biens mal acquis. L'affaire des biens mal acquis, ça commence par une plainte en 2006 du Comité catholique contre la faim et pour le développement contre plusieurs chefs d'État africains pour détournement de fonds publics. C'est-à-dire qu'ils attaquaient ce patrimoine immobilier qu'ils avaient en France. Et puis cette enquête, de façon assez surprenante, a prospéré, parce qu'il y a eu des tentatives pour la bloquer, mais elle a prospéré. Et jusqu'à mettre à jour un patrimoine immobilier absolument colossal, et jusqu'à conduire à un premier procès, celui de Théodora Obiang-Nguema, donc le fils du président de la Guinée équatoriale, en 2017, et qui a été condamné, et dont les biens ont été saisis. Donc le fil conducteur de l'histoire, c'est ça. C'est cette enquête, c'est cette affaire qui a duré et qui dure maintenant depuis bientôt 12 ans et qui va encore connaître certains développements. Avec la procédure va conduire à des procès de la famille Bongo, de la famille Sassou. Donc il y a encore pas mal de choses qui vont arriver. Et donc ça, c'est le fil conducteur. Mais évidemment, on ne pouvait pas comprendre cette histoire si on n'avait pas la toile de fond qui est celle de la France-Afrique. Et donc, vous avez ce que nous on appelait avec Julien Solé les pages jaunes, hein, c'est-à-dire que ce sont des encadrés historiques sur comment on est arrivé à cette situation ubuesque où des chefs d'État ont pu accumuler un tel patrimoine en France. Parce qu'il faut bien comprendre que pendant de nombreuses années, ces chefs d'État, ils étaient accueillis comme des rois en France. Hein, c'est-à-dire que les services secrets s'occupaient d'eux, on leur trouvait des écoles pour leurs enfants, on leur trouvait des appartements. Et aujourd'hui, ils sont extrêmement choqués parce que maintenant, ils sont poursuivis par la justice française, la justice de la République française. Donc, alors c'est bien, c'est la manifestation un petit peu de la séparation des pouvoirs et c'est plutôt une bonne chose. Mais de leur point de vue, ils sont extrêmement choqués. Et puis, effectivement, il y a des pages pour expliquer les mécaniques, comment circule l'argent, comment on détourne l'argent, avec qui et comment on le fait. Et ça, c'est quand même la magie de la bande dessinée, qui est un média extraordinaire pour raconter tout ça. Parce que d'un seul coup, vous rentrez dans le bureau de Jacques Chirac et vous comptez l'argent des mallettes avec lui. Et ça, personne ne l'avait fait jusqu'ici, parce que jamais aucun journaliste n'a été invité avec Robert Bourgis à venir compter l'argent qu'il apportait pour le compte de Chirac. Après... Le dessin est un outil extraordinaire pour expliquer l'économie. Moi, je viens de la presse économique et je disais souvent un bon graphique vaut mieux qu'un long papier. Parce que souvent, l'économie, c'est de l'argent qui circule. Et donc, visuellement, on peut montrer des choses de façon extrêmement simple et extrêmement synthétique.
Parce que moi, il y a une double page qui m'a marqué, c'est 74-75 dans l'album, où en deux pages, on passe d'une torchère de puits de pétrole, on a un petit cheminement politico-financier, et on arrive finalement à deux pieds d'opposants qui sont accrochés à une batterie électrique. Donc là, c'est effectivement le dessin a cette force. Si on le raconte, on n'a pas la même efficacité, évidemment.
Évidemment. Et c'est un fait que tous les pays pétroliers sont des régimes dictatoriaux ou quasi-dictatoriaux. C'est-à-dire que l'exploitation du pétrole est un obstacle majeur à l'émergence d'un régime démocratique.
On en a un peu parlé. C'est une bande dessinée qui est aussi une enquête journalistique qui a été prépubliée, pas dans son intégralité, je pense, mais en tout cas en partie, dans une revue qui s'appelle la Revue Dessinée, qui est une revue qui doit avoir 5 ou 6 ans maintenant, qui est une revue de reportage et d'histoire uniquement en bande dessinée. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce travail de journalisme en bande dessinée ?
Tout à fait. Alors moi, j'ai commencé effectivement avec la Revue Dessinée qui a été fondée par des amis. Moi, j'ai toujours aimé la bande. Enfin, à titre personnel, j'ai toujours lu de la bande dessinée. Même si je suis pas un fou furieux de la bande dessinée, je lis beaucoup. Mais j'ai toujours aimé la bande dessinée. J'en ai toujours lu. Je n'avais jamais imaginé en faire parce que je ne suis pas scénariste. Et la Revue Dessinée, David Servenay, notamment, qui est l'un des membres fondateurs, est venu me chercher, qui est un ancien journaliste de RFI, en me disant mais il faut absolument que tu adaptes ton enquête sur l'affaire des biens Malakis. J'ai commencé par publier avec Thomas Hofnung un livre sur l'affaire des biens Malakis à la découverte. Et comment ça fonctionne ? Eh bien, je me suis dit, mais oui, je suis extrêmement intéressé, pourquoi pas. Mais je n'ai jamais fait de scénario de bande dessinée, c'est quand même quelque chose d'assez différent. Et donc, le principe de la Revue Dessinée, c'est qu'il marie... Un chercheur, un journaliste, quelqu'un qui a une histoire à raconter, une histoire avec des faits, avec un dessinateur de bande dessinée. Et donc ce qui s'est passé, c'est que toutes les semaines, tous les mardis, pendant des mois, avec Julien Solé, on se retrouvait à la Revue Dessinée et on travaillait sur un storyboard. Et donc moi, dans un premier temps, j'ai essayé de trouver une narration à partir de mon livre. Et la narration, elle s'est construite autour de Jean Mercard, qui est ce membre du CCFD qui est à l'origine de la plainte sur les biens mal acquis et qui va jouer un rôle tout du long dans cette affaire. Et donc c'est lui notre narrateur. Et à partir de là, tout s'est articulé autour de ce narrateur et de ce qui se passe dans les capitales africaines, de ce qui se passe à l'Élysée, à Matignon. Et c'est vrai que c'est un exercice très différent. C'est-à-dire que écrire un livre d'enquête et écrire une bande dessinée d'enquête, c'est un travail tout à fait différent parce que la narration est totalement différente. Il faut l'organiser autour d'un personnage que vous allez suivre et qui va vous raconter une histoire. Et ça, c'est vrai que pour moi, dans un premier temps, ça a été compliqué parce que je ne voyais pas très bien par quel bout le prendre. Et là, Julien Solé m'a éclairé de tout son savoir et c'est vrai que ça a été un vrai bonheur. On a un peu pataugé au départ et puis après, on a trouvé la clé et puis ça a glissé. Donc, on a publié une première version pour la Revue Dessinée qui faisait une cinquantaine de pages. Et Glénat a été très intéressé à l'idée de publier un album complet. ce qui s'est passé entre-temps, entre la première publication et la publication chez Glénat, eh bien, c'est qu'il y a eu le procès de Théodorin Obiang-Nguema, et donc on avait une chute, on avait une fin à notre histoire. Et puis, pour moi, c'était génial, parce que 50 pages, c'était pas assez, j'étais extrêmement frustré, j'avais plein de choses à raconter, et donc on a pu en rajouter un peu avec Julien Solé, et on est assez content du résultat, Glénat aussi. Et les lecteurs aussi, puisque la bande dessinée marche très bien.
Pour finir sur les biens mal acquis, quand un dictateur est condamné, que devient l'argent volé, que devient les biens? Est-ce que ça retourne aux Africains?
Alors c'est la grande question du moment, c'est-à-dire que pour l'instant c'est le trésor public français qui récupère les biens mal acquis. Et évidemment ceux qui sont à l'initiative de la plainte ne souhaitent pas que cet argent qui a été volé aux Équato-Guinéens, aux Congolais ou aux Gabonais finisse dans les caisses de l'État français. Donc il y a un texte de loi qui est en discussion, qui va bientôt arriver au Sénat, et qui vise justement à encadrer la restitution de ces biens. Il y a déjà eu des cas de restitution avec la famille Abacha au Nigeria, de l'argent qui avait été détourné, mais on remettait l'argent à un régime différent. Là, c'est compliqué parce que l'argent a été volé par les Sassou, les Bongo et les Obiang, Nguema. Il est saisi par la justice française, mais ces régimes sont toujours en place. Donc on ne va pas rendre à des régimes qui ont volé ce qu'ils ont volé. Donc il faut mettre en place des systèmes qui sont à chaque fois ad hoc, soit en passant par les Nations Unies, par la Banque mondiale, par des ONG, etc., pour essayer de restituer cet argent aux populations, évidemment, et pas à ces régimes qui mènent grand train.
Et pour finir, je voulais terminer sur les personnages africains qui sont quasiment inconnus en France, mais qui sont plus que des lanceurs d'alerte. Et certains ont payé de leur vie, d'ailleurs, leur combat contre ces biens mal acquis, contre la corruption. Voilà, vous les mettez en scène, et je trouve que c'est une bonne chose de les remettre à leur place et de leur donner presque la première place.
Bah oui, parce que, évidemment, moi, je suis toujours ébahi par leur courage, parce que en tant que journaliste, je suis allé dans ces pays, mais j'y suis resté quelques semaines au maximum, et c'est vraiment pas très agréable, parce que vous savez que vous êtes surveillé, vous savez, mais ça ne dure que quelques jours ou quelques semaines. Quand vous êtes opposant, vous faites partie de la société civile dans ces pays, vous savez que vous êtes surveillé en permanence et que vous êtes dans la ligne de mire du gouvernement. Et donc, eux se sont levés et se sont constitués partie civile dans ces plaintes, en disant qu'en tant que contribuables de ces pays, eh bien, ils avaient été lésés par ces détournements. Et ils ont eu de gros, gros problèmes. C'est-à-dire que certains sont allés en prison, d'autres, effectivement, ont fait l'objet de grosses pressions. Certains qui n'étaient pas partie prenante à ces plaintes ont été victimes d'incendies. Je pense à Bruno Osebi, qui était un franco-congolais, dont la maison a été incendiée, qui a perdu ses deux filles, sa femme, et qui est mort un peu plus tard à l'hôpital à Brazzaville. Donc oui, les conséquences pour ces membres de la société civile peuvent être terribles. Et tous, moi je leur tire mon chapeau, je dis sans eux, tout ça ne serait pas arrivé. Et c'est toujours par la société civile, enfin malheureusement, c'est toujours par la société civile que les choses avancent et que les choses bougent. Et aujourd'hui, l'une des grandes victoires de l'affaire des biens mal acquis, enfin, l'une des grandes avancées, c'est qu'effectivement, il y a ces procès et que donc c'est une forme de fin de l'impunité. En tout cas, l'impunité est sérieusement affectée. Mais c'est que la question des biens mal acquis, les populations de tous ces pays se la sont accaparées. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la société civile, des parlementaires qui commencent à demander des comptes à leur gouvernement, à leur régime, au président, sur leur train de vie, sur l'origine de cet argent. Et donc, c'est ça qui est fondamental dans toute cette histoire. C'est pas finalement qu'une association française, aussi bien armée soit-elle, réussisse à faire condamner un chef d'État. C'est que les sociétés civiles émergent et qu'elles commencent à demander des comptes à ces régimes et qu'il y ait des contre-pouvoirs qui se mettent en place. Et c'est ce qui est en train de se passer. Alors, c'est un long chemin, mais c'est pour moi l'une des plus grandes victoires de cette affaire.
Bien, Xavier Harel, je vous remercie. Je redis aussi que cet album est dessiné par Julien Solé, qui est bien connu des amateurs de bande dessinée, et son dessin à la fois précis, documenté et en même temps drôle, et ses caricatures d'hommes politiques sont toujours assez croquignolesques et savoureuses. Julie, je vous repasse la parole.
Oui, Stéphane, merci beaucoup pour cette rencontre passionnante. Merci beaucoup, Xavier Harel, d'être venu ici. C'est donc une enquête qu'on recommande, hein, qui s'appelle donc L'argent fou de la France-Afrique. Xavier Harel au scénario et Julien Solé au dessin, donc comme vous venez de le dire, Stéphane. Et c'est aux éditions Glénat pour un prix de 17,50 €. Une toute petite curiosité peut-être pour la fin. Vous avez donc pris goût à la BD, Xavier Harel. Est-ce que, j'imagine que votre enquête continue, puisque ce sont des enquêtes qui ne se clôt pas vraiment, finalement. Vous, en tant que journaliste, vous avez peut-être envie de refaire de la BD ?
Oui, alors en ce moment, je suis en train de travailler sur un scénario de bande dessinée à nouveau historique, et qui concerne cette fois le rôle de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ah oui, donc rien à voir.
qui a été le bras financier du Troisième Reich. En gros, sans la Suisse, la guerre se serait peut-être arrêtée quelques mois, ou peut-être même une année plus tôt.
Bon, bah alors vous viendrez nous en parler
avec plaisir
au moment où la bande dessinée sortira. Merci beaucoup. Donc c'est la fin de Bulle d'Histoire, et c'était donc avec Stéphane Dubreuil. Et on se retrouve la prochaine fois, Stéphane, dans 15 jours.
Absolument. À bientôt, Julie.
À très bientôt.
Bulle d'Histoire. Bulle d'Histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.